Béni soit le nom du Seigneur. Alors nous allons lire deux textes, nous allons prendre la Sainte-Seine tout à l'heure. J'y tiens dans le sens où je pense que c'est l'occasion pour plusieurs qui sont empêtrés peut-être dans la routine, dans la religiosité, dans le train-train, de réaliser combien Jésus a institué la scène, non pas que pour que nous nous souvenions de son œuvre au calvaire, mais également pour comprendre qu'il y a derrière la commémoration, il y a la possibilité d'avoir une victoire. Est-ce qu'il peut y avoir une guérison, une délivrance? Eh oui, il vous sera fait selon la foi du pasteur. C'est ça qui est écrit? Comment non? Ne me contrariez pas. Il vous sera fait selon votre foi. Et si votre foi ce matin agit, eh bien le Seigneur, il agira. Lorsque Jésus sauvait, lorsque Jésus guérissait, il ne disait pas, ma puissance t'a sauvé. Il aurait pu le dire. Mais ça, c'est le Seigneur Jésus. Il ne disait pas, ma puissance t'a guéri. Il disait, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Vous vous rendez compte comment le Seigneur a voulu que nous comprenions. Et puis, ce n'est pas une fois, c'est tout le temps. Il a voulu que nous comprenions que la bénédiction qui existe, elle dépend de notre foi. Alors, j'aimerais qu'on fasse deux lectures, s'il vous plaît, pour comprendre un sujet sérieux. Beaucoup de chrétiens ont besoin d'être touchés par le Seigneur, d'être retouchés. Alors, dans l'évangile de Marc, il y a une histoire étonnante. Vous l'avez certainement lue, vous pensez qu'elle est utile uniquement pour l'évangélisation, mais croyez-moi, elle est utile pour l'exhortation. Marc, chapitre 8, verset 22. On a chanté « Quand je t'ouvre mon cœur ». On peut aller à l'église avec un cœur complètement fermé, endurci, méchant. Et on peut ouvrir son cœur. Et même celui qui est endurci, celui qui est méchant et plein d'amertume, Dieu le bénira. Parce que quand Dieu remplit, eh bien, il y a la délivrance. Marc chapitre 8, verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il y mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Je relis s'il vous plaît, c'est le thème de ma prédication. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Vous gardez la page, s'il vous plaît, et vous allez un petit peu en avant. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, c'est une histoire merveilleuse qui s'est passée juste après le plus beau des sermons qui a été prêché sur la terre, le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, et il se passe quelque chose. On pourrait lire d'ailleurs le verset 28 du chapitre 7. Regardez donc cette réaction de la foule et d'un homme. Matthieu chapitre 7, verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. C'est beau, hein? C'est sûr que ça devait changer des pharisiens. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Dans la première histoire, vous avez remarqué ce qui se passe? Jésus est à Bethsaïda. Écoutez bien mes frères et sœurs, Jésus est à Bethsaïda et vous avez vu ce qui s'est passé? Jésus il prend l'aveugle, il l'amène où? Il vous faut m'aider. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il l'amène en dehors du village. C'est la première fois que Jésus fait ça. À la fin, lorsqu'il est guéri, il lui dit n'entre pas au village. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça c'est important et vous allez voir combien c'est important. Pourquoi Jésus prend cet homme et dit non? Ça veut dire je ne vais pas le bénir dans le village. Je vais le bénir en dehors du village. Est-ce que le Seigneur Jésus avait fait un caprice ce jour-là? Non. Si vous lisez, et vous le ferez, si vous lisez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, il s'est passé quelque chose à Bethsaïda. Il s'est passé quelque chose, Jésus a prêché l'évangile et ils ont catégoriquement refusé la grâce. Catégoriquement. Et Jésus prononce sur cette ville ou sur ce village une parole sévère, malheur à toi, Bethsaïda. Ça veut dire que le jugement a été prononcé sur cette ville, comme quand un des fils de Noé, Canaan, vous rappelez? Oui, c'est Canaan. Lorsque un des fils de Noé a vu son père nu, vous vous rappelez cette affaire? Il a vu son père nu et de suite il va le répéter à ses frères. Ah, papa il est nu, venez voir. Et ses frères, eux, ont pris un manteau, sont entrés en reculant dans la chambre et ont couvert son père pour ne pas voir leur nudité. Quand je vois aujourd'hui où on en est de la nudité. Et Dieu va prononcer par la bouche de Noé une malédiction sur Canaan. Maudit soit Canaan. 1800, écoutez bien parce que c'est lié à tout ce qu'on va voir. 1800 ans après, par Josué, la malédiction est arrivée sur Canaan. 1800 ans après, ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Et heureusement que Dieu est patient et qu'il prend du temps pour exercer ses jugements. Bethsaïda est dans le même cas de figure. Jésus y va. C'était pas extraordinaire que Jésus arrive à Bethsaïda? Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce que Dieu faisait à ce village? Et il n'écoute pas. Et il ne se repente pas. Vous le lirez, c'est dans Matthieu chapitre 11. C'est pas quand même le but de la prédication. Mais Jésus prononce le jugement. Ça fait que quand un homme dans Bethsaïda va vouloir demander la bénédiction, ce n'est pas possible que ça soit dans le village. Jésus le sort du village parce que déjà, le village, il est voué au malheur. Ils ont choisi. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, c'est exactement la même chose, mais c'est exponentiel. C'est multiplié, non pas par un petit village, mais c'est au niveau des nations. Je ne sais pas si vous regardez les informations, moi je les regarde sur Google Actualité. Cette semaine, j'ai vu que le Parlement islandais, je ne sais pas si vous avez vu, écoutez bien, ça fait peur. Le Parlement islandais, dans un pays à 91% luthérien, ça veut dire qu'ils ont tous été protestants. Écoutez bien, le Parlement donc, a voté, a validé ce que le gouvernement a choisi. Ils ont validé la loi sur la dépénalisation du blasphème. C'est-à-dire que maintenant, en Islande, depuis Charlie Hebdo, ils ont décidé que l'on pouvait blasphémer au nom de la liberté d'expression. Ça a été voté cette semaine en Islande. Peut-être que vous, ça vous dit, bon, ça vous fait rien. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes arrivés au dernier avertissement de l'Apocalypse, que celui qui est saint se sanctifie et que celui qui se souille encore. Et qu'on le veuille ou non, nous nous positionnons. Les pays se positionnent, les gouvernements, les sages, se positionnent. Et nous sommes obligés de nous positionner. Jésus veut bénir cet homme. Quand dans ce petit village de Bethsaïda, il y avait un aveugle, et bien Jésus n'a pas dit, non, le village est voué à la malédiction, au malheur. C'est son problème. Au niveau individuel, il y aura des vainqueurs. Au niveau individuel, uniquement. Notre pays, avec ce qui se passe, est voué à la malédiction. Vous avez dit, mais non, monsieur Gou, il y aura un réveil, écoutez-moi. La colère de Dieu va se révéler. Et vous le savez, la colère de Dieu va se révéler du ciel. Les hommes attirent la colère de Dieu. Le choix des gouvernements attire la colère de Dieu. Mais il peut y avoir des hommes qui, conscients du malheur qui vient, peuvent dire, moi, je veux que le Seigneur Jésus me touche. Moi, je veux prendre position. Comme ce lépreux, vous avez vu cette histoire comme elle est belle? Ce lépreux qui a entendu Jésus prêcher. Il y a peut-être des années qu'il n'avait pas entendu une prédication. Parce que dans ce contexte, tout le monde allait à la synagogue, tout le monde allait au temple. Mais là, il s'est trouvé par hasard, justement, aux alentours de cette montagne où Jésus prêchait. Il y avait une grande foule qui a été frappée. Mais ça ne suffit pas d'être frappé par la prédication. Ça ne suffit pas de trouver un message extraordinaire. Et il y a un homme qui a été profondément bouleversé. Je ne sais pas si nous voulons que le Seigneur nous touche. Mais si nous voulons que le Seigneur nous touche, il faut au préalable avoir été touché dans son cœur. Et pouvoir dire, mais c'est vrai, le Seigneur, il est vivant. Ce matin, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là ce matin? Moi aussi le premier, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là, moi? Vous pouvez me dire, parce que c'est ton boulot. Eh oui. Qui vous dit que je ne suis pas là juste pour mon travail? Est-ce que ça peut se présenter? Qu'un pasteur soit dans une église que parce qu'il faut qu'il y soit pour prêcher? Est-ce que ça peut se présenter? Bien sûr. Mais vous, moi, de la même manière, je dois dire, mais pourquoi je suis là? Est-ce que je suis là parce que j'aime Jésus? Parce que je suis d'abord un chrétien avant d'être un serviteur? Est-ce que je suis là parce que je veux l'aimer? Il n'y a que Dieu qui sait. Vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas savoir. Mais de la même manière, vous devez pouvoir dire, mais pourquoi je suis là? Est-ce que je fais partie de cette foule qui suit? Suivez de loin. C'est écrit, suivez. Mais le lépreux, lui, il s'est approché. Et je voudrais que ce matin, ce soit une occasion pour plusieurs de dire, mais il faut que je m'approche. Il y a une parole qui a dû toucher ce lépreux, peut-être tout le sermon. Peut-être une parole, peut-être qu'une. Heureux ceux qui pleurent, peut-être que ça l'a bouleversé. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Est-ce que ça a pu le toucher, ça? Est-ce qu'il devait pleurer, cet homme? Il y a des chances. Quand on est lépreux, qu'on ne peut plus toucher sa femme, embrasser ses enfants, quand on ne peut plus s'approcher des gens, je pense qu'il y a de quoi pleurer. Vous savez, la lèpre, elle existe aujourd'hui. Pas la lèpre physique. La lèpre spirituelle, elle existe. Et ça devrait nous faire réfléchir. Tiens, il y a combien de temps que je n'ai pas serré ma femme dans mes bras? Il y a combien de temps que je n'ai pas serré mes enfants dans mes bras? C'est quoi qui fait qu'il y a cette distance? Cet homme, il a été touché. Sa démarche courageuse, parce qu'il a risqué sa vie, sa démarche courageuse indique, vous pouvez le lire, le sermon sur la montagne, moi cette semaine je l'ai lu, et moi qui ai prêché des centaines de fois sur le texte, ne vous inquiétez de rien, ça m'a fait du bien de relire pour la millième fois, c'est sûr, ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre du Seigneur. Moi, ça m'a fait du bien, parce que des fois, on s'inquiète. Je ne sais pas vous, il n'y a pas des choses qui nous inquiètent. Ça m'a fait du bien. Cet homme, il a été touché. Peut-être qu'il a été touché lorsque Jésus a terminé d'enseigner sur la prière, sur le Notre Père. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Peut-être qu'il a dit, mais parce que c'était un homme comme vous et moi. Il ne faut pas oublier que c'était un homme, un vrai, comme vous, comme moi. Peut-être qu'il a dit, mais alors, ce n'est pas ces pharisiens qui font du cinéma avec leur religion. C'est à Dieu qu'appartient la puissance, c'est à lui, c'est le Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais vous n'avez pas envie qu'il se passe quelque chose dans votre vie? Sérieusement. Vous n'avez pas envie de redécouvrir combien les paroles de Dieu sont esprit et vie? Quand Jésus prêchait, nous, nos paroles, des fois, elles sont intellectuelles, elles sont religieuses, elles sont sentimentales, elles ne servent à rien. À rien. La chair ne sert à rien. Mais quand Jésus parlait, il a pu dire, mes paroles sont esprit et vie. Quand il parlait, lui, quand il parlait, même si c'était d'une sévérité ou d'une tendresse pas possible, qu'importe, ses paroles étaient esprit et vie. C'était la vie qu'il communiquait. Et quand il a prêché, bien sûr que les gens étaient frappés, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut s'approcher. Il n'y a pas quelqu'un ce matin qui dit, mais il faut que je m'approche de lui. Dimanche dernier, je crois que c'est dimanche dernier, il y a eu 3 dons spirituels. Les 3 dons, je ne sais pas si vous vous souvenez, rappelez l'importance de s'approcher de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit nous rappellerait-il qu'il faut qu'on s'approche de lui? Eh bien parce qu'il veut qu'on obtienne miséricorde. Il veut qu'on obtienne le pardon. Peut-être qu'il n'y a aucune prière que Dieu exaucera. Vous pouvez prier tant que vous voulez. Mais la prière, Seigneur, aie pitié de moi, cette prière, il peut l'exaucer. Oui ou non? Rappelez le mendiant, il a dit, aie pitié de moi. Le roi David, qui dans sa royauté a dû faire une prière, il a fait la même prière. Aie pitié de moi, que vous soyez clochard ou notable, qui que nous soyons, de temps en temps, c'est la seule prière de toute façon que Dieu exaucera. Seigneur, aie pitié de moi. Mais c'est une occasion de prendre la Sainte-Seine tout à l'heure. Il dit, mais Seigneur, il faut repartir à zéro. Il faut qu'il se passe quelque chose. Des fois, vous priez, Seigneur, bénis notre pasteur, qu'on ait une bonne prédication. Vous le faites, ça? Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur, au fait? Quand vous priez pour votre pasteur, quand il va prêcher, qu'est-ce que vous demandez? Allez, dites-le-moi. Ça ne sera pas enregistré, je vous assure. Sérieusement, qu'est-ce que vous faites quand vous priez? Vous avez prié ce matin, je suis sûr, Monsieur de Dieu, vous avez prié pour moi. Je le sais. Qui a prié pour moi ce matin? Qui n'a pas prié pour moi? Vous avez prié? Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Parle-nous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui prient dans le sein du Seigneur? Mais dis-moi ce que tu as à me dire. quoi que ce soit, mais dis-le-moi. Est-ce que vous croyez que Dieu le peut? Oui, Dieu le peut. C'était une grâce d'assister à un sermon de Jésus. Est-ce que c'était une grâce? Et pourtant, qu'est-ce qui est écrit? Jésus parlait un jour. Moi, je lisais cette histoire hier parce qu'elle m'est venue à l'esprit en préparant ce sermon. Jésus parlait un jour dans un endroit, en plein air, et tout d'un coup, il y a une femme qui l'interrompt. C'est souvent les femmes qui interrompent. D'ailleurs, une femme l'interrompt et elle va dire quelque chose de super. Heureuse le sein qui t'a porté. Jésus se tait. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus va répondre, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Pourtant, je pense que pour Marie, ça a dû être quand même une bénédiction de porter le Fils de Dieu dans son sein. Oui ou non? De l'allaiter. C'est un truc de fou, c'est merveilleux. Et Jésus dit qu'il y a quelque chose de plus grand que d'avoir porté le Fils de Dieu, que d'avoir allaité le Fils de Dieu, le Seigneur Dieu lui-même. C'est d'écouter la parole et de la mettre en pratique. C'est tellement vrai qu'une autre fois, il y a les frères de Jésus qui sont dehors avec Marie. Il y a quelqu'un qui écoute, il y a ta mère et tes frères qui sont dehors et ils te demandent. Et Jésus va dire, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Deux fois, d'une manière différente, c'est dit pour que nous comprenions bien qu'il y a quelque chose de plus grand que d'avoir porté le Seigneur Jésus dans ses bras, que pour une femme de l'avoir allaité, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Donc je reviens à mon lépreux. Il a compris, c'était pas la religion. La religion ça sert à rien, la nôtre elle sert à rien aussi. Faut qu'on compare les religions, moi je suis, regardez, en Islande, ils sont luthériens à 91%. Vous avez vu, ça n'a pas empêché de voter une loi abominable. L'autorisation de blasphémer. De blasphémer, c'est de se moquer de Dieu, vous ne vous inquiétez pas. Hein. Ça a été voté dans un pays à presque à 100% chrétien. C'est grave, mes frères et sœurs. C'est grave. Notre village, notre grand village qui est la terre, est en train de se préparer à la colère. La colère, elle vient. Et si vous n'êtes pas converti, si vous ne vous êtes pas engagé, faites-le. Faites-le. Vous qui êtes ici ce matin, vous qui êtes ou qui écouterez sur Internet, convertissez-vous. N'attendez pas de voir si c'est vrai. Parce que quand vous le verrez, ça sera trop tard. Moi, je vous l'ai dit. Dans le cœur de ce lépreux, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Mais j'aimerais que ce matin, il se passe quelque chose dans votre cœur. Mardi, jeudi soir, à la réunion d'évangélisation, notre frère Michael nous rappelait les prières courtes que des hommes ont faites parce qu'ils ne pouvaient pas les faire plus longues d'ailleurs. Vous vous rappelez quand Pierre marchait sur l'eau après avoir fait une expérience extraordinaire et qu'il a commencé à s'enfoncer, il n'a pas eu le temps de réciter quand même une prière de 3h30. Il a juste dit, Seigneur, secours-moi. Trois mots. Et Jésus l'a secouru. C'est vrai que ce n'est pas la peine de prier des heures, ça peut faire partie du combat. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense qu'il y a des moments où il faut qu'on prie, qu'on combatte. Il y a un combat. Des fois, il y a des prières toutes simples qui peuvent être faites. Mais là, on entend un sermon. Ce lépreux qui était maudit, il était maudit par les hommes parce que les hommes ne peuvent rien faire. Mais Dieu, il peut bénir. Ce matin, est-ce que vous croyez que Dieu peut vous bénir? Mais est-ce que vous le croyez vraiment? Cet homme, il l'a cru. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a été... Parce que bon, on a dit plein de choses sur ce lépreux. Je ne sais pas si c'est conscient ou si c'est inconsciemment. Mais une chose est sûre, c'est que la parole de Jésus l'a attiré. Et je vous pose la question. Pas la prédication, bien sûr. C'est un moyen. Mais est-ce que la parole de Jésus vous attire toujours? Est-ce que le livre vous attire? Est-ce qu'il vous attire le Saint-Livre? C'est une bonne question. Est-ce que je suis attiré? Vous savez, avant-hier, ce que le gouvernement islandais a fait, j'ai lu dans Daniel, quand il est dit que l'Antéchrist, il espérera changer les lois. Il y arrive, hein? Lui, il persévère. Laissez-moi vous dire que dans l'enfer, on persévère. Je ne sais pas comment ça se passe, comment ils prient, etc., leur maître, mais je peux vous dire qu'ils persévèrent. Ce lépreux, il a compris, consciemment ou pas, j'en sais rien, c'est comme tout à l'heure, comment ça va se passer, la Sainte-Seine, je prends par la foi ce petit peu de vin, ce petit peu de pain. Vraiment, Seigneur, je sais que tu es là. Est-ce que le Seigneur, il est là? Vous le sentez pas, vous le réalisez pas. Moi, je vous dis que le Seigneur, il est là. Il est là par sa parole, par son esprit, et il veut bénir vous qui vous traînez peut-être depuis des mois, des années. Moi, quand je vois des couples qui se détruisent, est-ce qu'il faut attendre des années pour crier à Jésus? On le voit dans la Bible, une femme atteinte d'une perte de sang, ça tombait pile poil. Ça faisait 12 ans qu'elle souffrait. 12 ans. 12 ans, elle avait tout dépensé. Est-ce qu'il faut attendre un an de plus de souffrance pour crier à Dieu? Je ne juge pas. Mais je me demande parfois comment on est compliqué. On attend un an, on attend deux ans, mais on attend un peu plus. Mon foyer, il est en frac, ben on attend, on verra bien. On verra bien, comme ce chrétien me disait, ben on a tout essayé, maintenant on va essayer la prière. J'ai dit, ça aurait été peut-être mieux que vous commenciez par la prière. Mais il était sérieux. Il a dit, on ne sait jamais si ça marche. Quand les gens parlent comme ça, c'est qu'il y a longtemps qu'il y a quelque chose qui fait obstacle à la prière. Il faut l'accepter. Vous imaginez si cet aveugle, il avait dit, non, bénis-moi dans le village. Je veux que ça se passe comme ça. Il y a des gens, ils sont comme ça, moi je vous assure. C'est grave ce que je vais vous dire. Les gens, ils n'écoutent plus rien. Ils n'écoutent aucun conseil. Et quand vous donnez un conseil, vous savez ce que les gens font? Ils s'en vont. Moi, ça m'est arrivé dernièrement dans l'église. Je continuerai à le faire de toute façon, de manière sérieuse, bien sûr. Vous donnez un conseil à quelqu'un, il vous toise, il vous dit, je sais ce que j'ai à faire. Et vous savez, cette semaine encore, j'ai eu des échos de gens qui ils auraient mieux fait d'écouter les conseils. Croyez-moi. Cette femme, elle a attendu 12 ans. Moi, je sais qu'il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui, ça fait peut-être pas 12 ans, mais ça fait peut-être un an de trop que vous attendez. Vous espérez que. L'espérance, c'est pas je pense que ça va s'arranger. Les païens, ils pensent aussi, j'espère. Ils n'espèrent rien. Ils parlent de cette façon. Mes frères et sœurs, le jugement, il vient. La colère de Dieu, elle vient. C'est pas un scoop. C'est écrit, je ne sais combien de fois, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, la colère de Dieu, elle vient. Si vous regardez ce qui se passe, les hommes sont en train de choisir la malédiction. Ils choisissent la malédiction. C'est un mot peut-être que vous n'aimez pas, que vous n'entendez pas souvent, mais c'est exactement ça. Ils choisissent le malheur. Qui ce matin choisira la main du Seigneur? Ses mains percées. On aime chanter ces beaux cantiques. Hein, vous aimez les chanter, trois croix sont dressées? Mais c'est une réalité. C'est aujourd'hui que les mêmes percées du Seigneur peuvent se poser sur vous et que vous obteniez la bénédiction. C'est une démarche sérieuse. Alors c'est vrai que dans ce village, c'est intéressant. Lorsque Jésus va guérir cet homme, vous avez vu comment ça s'est passé? Le Seigneur pose les mains sur cet homme et on lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Vous êtes au verset 24? Vous n'avez jamais été étonné par ce texte? Allez, on relit le verset 24. C'est quand même bizarre. J'ai entendu quelqu'un qui a dit peut-être que Jésus était fatigué. Non, mais je vous assure, il y a des gens. Non, je crois qu'il y a un enseignement derrière. Marc 8, 24. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois. Comment ils sont les hommes? Comme des arbres qui marchent. Qu'est-ce que c'est ce travail? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il faut comprendre ces choses. Le Seigneur a guéri cet aveugle. Il l'a guéri en deux fois. On peut le dire comme ça. Il l'a guéri en deux fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le Seigneur nous touche la première fois, il reste beaucoup de travail à faire. Et que ce n'est pas parce que les mains de Jésus nous ont touchés dans les conditions qu'il fallait que tout est accompli. Regardez l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, à un moment donné de son ministère, il a un problème. Ça fait 3 ans et demi qu'il marche avec le Seigneur Jésus. Jésus exprime pour la énième fois qu'il va souffrir, qu'il va être livré, qu'il va être crucifié. Et lui, il dit non. Et puis même si, de toute façon, moi, je suis là. Je suis là jusqu'à la fin. T'inquiète pas. Les autres, peut-être que non, mais moi, je suis là. Pourtant, il avait été touché. Et Jésus va le faire passer par une expérience. Écoutez bien, parce que la guérison en 2 fois, on y est dedans. Peut-être que je suis dedans. Vous y êtes dedans, peut-être pas en 2 fois, en 10 fois. Combien de temps il faut à Dieu pour faire un homme de Dieu? Combien de temps il faut pour faire un homme de Dieu? Il faut toute une vie, je pense. Mais il n'empêche que cette expérience, elle peut être renouvelée aujourd'hui. Il y a une démarche, vraiment une démarche, pas d'aller à l'église et d'écouter un sermon. Une démarche qui va peut-être se poursuivre tout à l'heure ou ce soir dans votre maison. Une démarche qui nécessite vraiment une acceptation, parce que quand on n'accepte pas, on le paye. On le paye. Jésus donc va dire à Pierre, écoute Pierre, il va se passer quelque chose, mais je vais prier pour toi. Le diable vous a réclamé, il parle tous, puis après il cible surtout Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous savez, l'ennemi, parfois, il a la même mise aussi sur certaines situations. Dieu le permet. Est-ce que Dieu peut permettre que l'ennemi puisse agir? L'apôtre Paul, il n'a pas eu une écharde de Satan pour le souffleter, c'était quelqu'un. Pour l'empêcher de s'enorgueillir, est-ce que ça valait la peine que Paul ne s'enorgueillisse pas? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça vaut la peine que nous ne nous enorgueillissions pas? Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas le même niveau. Mais enfin, le résultat, c'est le même. Est-ce que ça vaut la peine que nous ne tombions pas dans l'orgueil? Donc, même si on a été touché, comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, il n'avait pas été touché, l'apôtre Pierre, le jour où Jésus s'approche, comme par hasard, il s'approche du lac, il voit plein de barques, puis il dit à Pierre, Pierre, prête-moi ta barque. Il faut que je prêche, donc tu vas m'amener à 100 mètres du bord pour que, vous savez, l'écho de l'eau puisse atteindre tout le monde. Comme par hasard, c'était la barque de Pierre. Ce matin, c'est peut-être dans votre barque que le Seigneur vient se poser. Et une fois que le sermon est fait à tout le monde, Jésus parle à Pierre. Il dit, Pierre, tu vas aller au large et tu vas jeter le filet du côté droit. Pierre aurait pu lui dire, non mais... Il l'a dit d'ailleurs, il a commencé. Écoute, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Et aujourd'hui, c'était comme ça. Les gens disent, écoute, je sais ce que j'ai à faire. Moi, je le vois, des chrétiens. Un an de conversion. Qui dit, monsieur Gaud, on n'a pas besoin de vous. On a la Bible. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Oui. Quelle misère. Je vous assure, parce que je pense à d'autres situations qui me brisent le cœur. Pierre a dit, d'accord, mais sur ta parole, je le ferai. C'était un professionnel. Et il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui croient qu'ils sont des professionnels de la Bible, de la prédication, et ils s'imaginent qu'ils n'ont pas besoin d'être conseillés. Mais sur ta parole. Et là, ils vont pêcher, vous savez comment ça se passe, et qu'est-ce que fait Pierre? Qu'est-ce qu'il crie? Youpi, youpi, venez voir les gars, on a de l'argent pour le mois, je vais pouvoir vous payer. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? C'est comme ça? Non? Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à genoux. Il tombe à genoux. Au pied du Seigneur. Retire-toi de moi, il ne comprend pas. Il ne comprend pas que lorsque Dieu nous convainc de pécher, ce n'est pas pour s'éloigner, c'est pour s'approcher. Et il lui dit, mais retire-toi de moi qui suis un homme pécheur. Et là, Dieu va le bénir. Il a été touché ce jour-là. Mais 3 ans et demi après, il a besoin d'être touché à nouveau. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le jour de notre conversion, ça ne suffit pas. Parce que j'ai été touché il y a 3 ans, oh, j'ai fait une expérience. Il y a des gens, ils sont là, ils se gargarisent de leur expérience. Oh, monsieur Gaud, j'ai été guéri 3 fois, si vous saviez, c'est merveilleux. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis? Et Jésus dit à Pierre, écoute, c'est ça qu'il lui dit. Tu vois, tu as un problème. Tu continues à te confier en toi. Le problème de Pierre, c'est qu'il croyait, qu'il disait, il était loyal. Il était vraiment droit. Et il a dit, non, les autres, mais pas moi, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Il le pensait, il ne blaguait pas. C'est un problème de confiance en soi. Et c'est beau la confiance en Dieu. C'est beau la confiance en Dieu. Mais il ne faut pas confondre avec la confiance en soi. Et Dieu aurait, et Jésus aurait pu dire à Pierre, écoute, le diable t'a réclamé, mais ne te casse pas la tête. Hein. J'ai prié pour toi et ça ne t'arrivera pas. Est-ce que Jésus aurait pu empêcher que le diable crible Pierre? Bien sûr. Mais... le Seigneur l'a permis parce que c'était le moyen pour Pierre d'être délivré de la confiance qu'il avait en lui-même. Je peux vous dire qu'il avait besoin d'être touché une seconde fois. Nous avons été touchés une première fois. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez été touché? Est-ce que vous vous en souvenez? Vous en souvenez? Monsieur de Dieu faisait allusion ce matin dans sa prière. Pas vrai? Il le disait, il bénissait Dieu pour l'homme qui lui avait parlé. Vous vous rappelez la première fois où vous avez été touché? Vous rappelez la première fois où Dieu vous a touché, ou la première fois où votre prière a été exaucée? Vous vous souvenez la première prière qui a été exaucée? Moi, je me souviens. J'avais demandé à Dieu qu'il me donne une femme. Ça a marché. Je me souviens. Mais c'était pas une blague. Parce que si vous saviez le contexte, vous comprendriez que c'était pas évident. J'avais vraiment demandé à Dieu. La première fois où on est touché, on ne l'oublie pas. Mais ça ne suffit pas. Il faut un entretien. Regardez quand Jésus, je reviens à la femme à la perte de sang. Cette femme, elle veut la bénédiction. Elle en a marre. Elle est malade depuis 12 ans. Et elle est là, Jésus part dans le village. Déjà, il est loin, il y a une foule. Elle dit, mais si je peux toucher le bon... Elle est là. Elle est saisie par une conviction. C'est beau d'être saisie par des convictions. Elle se dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle est épuisée, cette pauvre femme, elle est épuisée, mais enfin elle y arrive. Elle joue des coudes, je ne sais pas moi. Moi j'aimerais voir la vidéo, on ne l'a pas. Elle arrive, elle touche le bord du vêtement de Jésus. Est-ce que Jésus aurait pu continuer à marcher, la zapper, voilà, bon. Est-ce que toutes les miracles, toutes les guérisons sont consignées dans la Bible? Non. Jésus s'arrête. Il s'arrête, il se tourne, il dit, qui m'a touché? Et Pierre lui dit, tout le monde te touche et tu demandes qui t'a touché. Mais quelle histoire! Que de dimanche on est venu, on a touché le Seigneur, on a touché sa parole, on a touché le pain et le vin, on a touché les frères, on était là dans la grâce de Dieu. Mais est-ce que vraiment on a touché la grâce? Est-ce que vraiment, je dis, mais Seigneur, mais c'est clair, ça fait 12 ans que moi aussi je me traîne ce problème. Vous croyez que le Seigneur peut s'arrêter? Et cette femme, elle était embarrassée comme tout, elle était saisie de frayeur. Mais ça s'est bien passé. Ça se passe toujours bien quand le Seigneur s'arrête, frères et sœurs. Même si ça ne va pas trop, ça va bien se passer. Il s'arrête, ce n'est pas pour nous faire des reproches. Si le monde, comme je le disais tout à l'heure, va vers le jugement, la condamnation et la colère, nous sommes ses enfants et nous sommes épargnés de la colère. Vous le savez, mes frères et sœurs. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous serez épargnés de la colère. Noé avait choisi, on en parlera cet après-midi, il avait choisi de marcher avec Dieu malgré cette génération corrompue. Les gens, ils se levaient le matin avec des mauvaises pensées, ils se couchaient avec des mauvaises pensées. Toute la terre était remplie de violence. Vous ne trouvez pas qu'on y arrive? Mais lui, il avait décidé de marcher avec Dieu. Point. Et quand on décide certaines choses, il ne faut pas que ce soit le temps d'un culte de 9h30 à 11h30, dire c'est bien, on a eu un bon culte, ça nous a fait du bien, ah ça m'a fait du bien. Pour le soir, être plongé dans sa misère parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter, même si on ne comprend pas comment ça va se passer. Cette femme, elle est effrayée, Jésus s'arrête, vous vous rendez compte, Jésus s'arrête dans la vie de cette pauvre femme. Vous croyez que Jésus peut s'arrêter dans votre pauvre vie? Pauvre, c'est entre guillemets, parce qu'on n'est pas des pauvres quand on est avec le Seigneur. On est vraiment riche et béni. Et Dieu veut s'arrêter dans votre vie. Cette femme, elle l'avait touchée par la foi. Ce matin, vous pouvez toucher le Seigneur par la foi. Vous pouvez être vraiment en contact avec lui. Pierre, il avait besoin d'une victoire. Peut-être que vous et moi avons besoin d'une victoire. Oui, il y a ça dans ma vie qui ne va pas. Oui, j'ai confiance en moi. J'ai confiance dans mes prières. Vous avez confiance dans vos prières? Vous avez confiance en Dieu. Pourquoi il y a des gens qui vont bien quand ils prient et que dès qu'ils arrêtent de prier, ils ne vont pas bien? Parce qu'ils se confient dans la prière. Ils ne se confient pas en Dieu. Ils sont contents quand ils font leur culte personnel. Est-ce que vous aimez faire votre culte personnel? Et vous ne me répondez pas. Est-ce que vous aimez faire votre culte personnel? Est-ce qu'après le culte, vous avez confiance en Dieu? Parce qu'il y a des gens, ils ont confiance que quand ils prient. C'est peut-être pour ça qu'ils prient longtemps. Mais mes frères et sœurs, il ne faut pas faire confiance à Dieu quand on prie. Il faut faire confiance à Dieu quand on prie et quand on ne prie pas. Il faut faire confiance à Dieu tout le temps. Et Jésus, malgré le fait que ce village était voué au malheur, il va bénir. Croyez-moi, le monde, il choisit le malheur. C'est pour ça que l'Église va être enlevée. Je vous assure, l'expression « nous sommes étrangers sur la terre », ça correspond vraiment bien aujourd'hui. Vous ne croyez pas que les chrétiens ils sont étrangers sur la terre? Ah ben écoutez-moi, vraiment. Alors qui ce matin dit « mais moi je veux être touché » Vous croyez que quand vous allez passer devant Dieu, quand on va passer devant Dieu, on va pouvoir dire sainement au Seigneur, « Tu sais Seigneur, je n'ai pas compris, j'avais besoin que tu me touches et tu ne m'as pas touché. » c'est quand même bizarre. Vous croyez qu'on pourra parler comme ça? Vous croyez qu'on pourra dire au Seigneur, « Seigneur, quand même, j'avais besoin d'une bénédiction, d'un attouchement et tu ne me l'as pas donné. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait ?» On pourra parler comme ça devant Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra... Mais combien de chrétiens? Oui, je prie, ça ne sert à rien. Vous parlez. Vous parlez. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Demandez et vous recevrez. On peut les prendre tous les versets, on en a pour la journée, où le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, n'arrête pas de nous rappeler que nous avons un Père céleste et que nous, méchants comme on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants. Alors, à combien plus forte raison notre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, s'il faut attendre encore un an, il y a des gens, il faut... Mais ça fait pitié, quoi. Il y a des gens, il faut qu'ils soient comme on dit en bas. Vous savez, qui racle le corail, voilà, et pour remonter. Peut-être que vous en êtes là. Peut-être que vous attendez que ça dégénère pour pouvoir dire comme cet homme, maintenant on a tout essayé, on va essayer la prière. Mes frères et sœurs, le Seigneur ce matin, il veut vous retoucher. Même si notre pays de France donne l'exemple sur ce qu'est la malédiction, je peux vous dire qu'en France, celui qui criera au Seigneur, il sera sauvé. Qu'il soit dans des quartiers pourris, j'utilise le mot parce qu'il y en a des quartiers pourris, par le péché. Mais dans un quartier pourri ou moins pourri, laissez-moi vous dire que si un homme crie, si un homme aveugle crie, même si ça prend deux fois, trois étapes, cinq étapes ou dix, le Seigneur y posera sa main parce qu'il est un Dieu qui guérit. Et Dieu il veut qu'on y voit distinctement. Et je vous encourage à lire ces textes. Je vous encourage à relire l'Apocalypse. Je vous encourage à prier pour que le Seigneur vous permette de voir. Cet homme, il vit distinctement, mais n'entre pas au village. Mes frères et sœurs, il y a des endroits où Dieu ne veut pas. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous regardions. Vous le savez, ça? Est-ce que vous le savez? Et faites attention à ce que vous regardez. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Soyez sensibles. Vous voyez ce verset? Je suis sûr que c'est pour quelqu'un qui a mauvaise habitude de regarder des choses qui l'éloignent de Dieu, des choses qui l'empêchent Dieu de lui parler. Ce n'est pas pour vous ennuyer que le Seigneur vous dit « Tu ne mettras rien de mauvais devant tes yeux. » C'est une autre façon de Dieu de vous toucher de nouveau et dire « C'est clair, je me fais piéger, il y a plein de choses que je regarde ou des endroits où je vais qui vont me perdre. » Regardez le parcours de Samson, il s'est perdu. Il flirtait toujours à la frontière, regardez bien. Vous savez, il faut faire attention. Et il faut faire attention. Nous avons un Dieu qui guérit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'attendons pas l'éternité. N'attendons pas d'être avec lui pour dire « Qu'est-ce que j'ai été bête ? Qu'est-ce que j'ai été insensé ? Je suis passé à côté de ce troisième attouchement. » Je suis passé à côté de cette guérison spirituelle. Je suis passé à côté, là, ce dimanche-là, j'avais l'occasion de donner ma vie à Jésus-Christ. Hein? Malheur à ces gens qui viennent tous les dimanches dans les églises, qui écoutent l'évangile et qui, en fin de compte, s'endurcissent. Parce que si tu entends la voix de Dieu et que tu ne te convertis pas, la Bible est catégorique, tu t'endurcis. C'est pas écrit, tu ajournes. Non. Si tu ajournes, en vérité, tu t'endurcis. Alors mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit « Moi j'ai besoin d'un attouchement ». J'y vois, je ne sais pas si vous voyez les arbres marcher, mais peut-être que vous ne comprenez pas, dis-moi, je ne comprends rien. Il y a des gens, je ne comprends rien, je lis. Ben relisez. Comment vous faites? Moi quand j'achète un meuble, des fois, l'autre jour j'achète un truc, il a fallu que je lise 15 fois pour comprendre la notice. Quand je ne comprends pas, j'appelle Lucas. Mais après, ça vous est jamais arrivé de devoir lire un truc 15 fois pour comprendre? Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Moi, c'est des trucs qui m'énervent. Mes frères et sœurs, s'il faut le lire 30 fois, ça ne vaut pas la peine? Peut-être que c'est un moyen béni que Dieu va utiliser pour qu'on le connaisse davantage. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il règne au siècle des siècles. Il règne en 2015, même si la colère, la condamnation et le malheur, des grands malheurs, viennent sur la terre. Attendez-vous-y. Mais un homme dans une nation de, je sais pas moi, de 100 millions d'habitants, il y aurait 99 999 000, etc., pêcheurs, s'il y en a un qui crie, le Seigneur y posera sa main. Et si ce matin, dans cette église, il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, moi je veux vivre cet attouchement, ce deuxième, ce troisième, eh bien vous le vivrez. Dieu ne fait pas d'exception. Que personne ne s'imagine, oh mais moi je ne vaux rien, Dieu ne m'aime pas. Vous savez, il y a des gens, une femme le disait, elle est partie la pauvre. Elle me disait souvent, oh, monsieur Go, Dieu ne m'aime pas. Qui je... Mais je dis, c'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Ah, elle était furieuse. C'est pas de l'humilité. Elle pensait que c'était de l'humilité, voyez, oh, moi qui je suis. J'ai dit, c'est de l'orgueil. Si Dieu dit qu'il vous aime, il vous aime. Est-ce que Dieu aime tout le monde? Tout le monde? Même les stagiaires en récalcitrant? Oui, Dieu, il vous aime, Jonathan. Tous, Dieu aime tout le monde. Tous. Ah oui, t'es pas mais moi qui je suis. Tout ça, c'est sentimental. Dieu vous aime. Et que, comme je disais tout à l'heure, que ce soit un roi, que ce soit un pauvre clochard, Dieu, il vous aime. Et ce matin, j'aimerais que vous disiez, Seigneur, il faut que je te touche de nouveau. Alors ne soyez pas exigeants et dire, il faut que ça se passe en 3 minutes. Seigneur, j'ai juste 3 minutes. Alors si vous en êtes là, il va falloir lui demander pardon. Vous entendez mes frères et sœurs? Attention. Attention, écoutez-moi bien, je termine. Attention avec ceux qui disent, Seigneur, j'ai que 5 minutes, Seigneur. Vous risquez de le payer cher. Donnez-lui le temps qu'il faut. Donnez-lui le temps qu'il faut. Quand on veut quelque chose... On prend le temps. S'il faut 1 heure, eh bien donnez-lui 1 heure. S'il faut 1 heure toutes les semaines, 1 heure par jour, ben donnez-la lui. Est-ce que c'est un temps que vous allez regretter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, oh, je vais regretter, ça fait, je prie 1 heure par jour, il ne se passe rien. Mais peut-être que Dieu vous éprouve. Regardez à Jéricho, Dieu leur a dit de tourner combien de fois, combien de jours, combien de fois autour de Jéricho? 13 fois. Les 6 premiers jours, 1 fois. Et le dernier jour, 7 fois. Mes frères et sœurs, pourquoi? Mais parce que ce qu'on n'obtient pas le premier jour, eh bien, on l'obtiendra peut-être le deuxième, etc. Alors j'aimerais qu'on se recueille, mes frères et sœurs. Oui, le monde est voué au malheur et à la malédiction et au châtiment. Croyez-moi, la colère, elle vient. Qui pourra la supporter? Qui lui échappera? Les chrétiens. Les vrais chrétiens qui sont couverts par le sang de Jésus. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous ressembliez à cet aveugle, que vous acceptiez que Jésus vous sorte peut-être de la malédiction dans laquelle vous êtes. Parce qu'il y a un malheur qui est prononcé. Il est prononcé, lisez l'Apocalypse et vous verrez que je n'exagère en rien. Mais la bénédiction, elle existe. Le Seigneur n'a pas dit, non, je ne vais pas aller dans ce village, non, c'est fichu, ils sont fichus dans ce village. Ils m'ont tous rejeté. Non. Je ne sais pas à Toulouse combien il y en a qui vont se convertir avant l'enlèvement, mais Dieu le sait. Et même si on ne comprend pas tout bien au départ, s'il y a des arbres qui marchent, si... c'est pas grave. C'est pas grave. Acceptons que la révélation soit progressive. Acceptez-le, mes frères et sœurs. Mais je voudrais vous demander qui ce matin vous dirait dire, mais je veux le toucher. Je veux qu'il touche ma main. Vous rappelez la belle-mère de Pierre? Elle était couchée, elle ne pouvait rien faire. Il y a des chrétiens, ils sont couchés, aplatis, ils ne peuvent plus rien faire. Eh bien, laissez Jésus venir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé dans la chambre. Il a mis sa main sur la main de cette femme. Et il a guéri. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dormi? Elle s'est levée et les a servis. Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de servir Dieu? Toi qui es aplati là dans le fossé, il n'y a pas quelqu'un qui ce matin veut dire, mais je ne fais plus rien à l'église. Oui, je donne ma dîme, mais d'accord, c'est bien. C'est vrai que c'est bien. Mais tu ne veux pas te lever pour le servir, alors ne le fais pas avec tes forces. Seigneur, touche-moi. J'ai 40 de fièvre. J'en ai marre. Vous croyez que Dieu peut dire, je vais la toucher celle-là? Je vais le toucher? Mais oui, il va le faire. Alors, pendant qu'on prépare le pain, je m'adresse aux frères et aux sœurs. S'il vous plaît, levez-vous avec joie. Faites cet acte de foi. Levez-vous maintenant avec joie. Seigneur, je vais pouvoir commémorer la scène, commémorer ton sacrifice, commémorer ton œuvre au calvaire. Tout ce sang versé déjà chez le Sanhédrin lorsqu'on l'a flagellé, dans le jardin de Gethsémané lorsque de son front coulaient des gouttes de sang, de son front couronné d'épines, ses mains percées, ses pieds percés, et à la fin son côté percé. Vous savez ce qui est dit? Que quand on a percé le côté de Jésus, qu'est-ce qui est sorti? Du sang, hein? Pourquoi il est sorti de l'eau? Vous savez pourquoi? Peut-être que vous n'y avez jamais réfléchi. Parce qu'il n'avait plus de sang. Il a versé tout son sang. Vous entendez? Il a versé pour toi, mon frère. C'est bien de chanter une trois croix sont dressées, une était pour moi. C'est bien. Il fallait le chanter. Il a versé tout son sang pour toi. Toi qui resteras assis, qui ne prendras pas le pain et le vin, tu te souviendras dans l'éternité que Jésus avait versé tout son sang pour toi. Les ados, les nouveaux, réfléchissez. Nous, on ne peut pas vous forcer. C'est vous qui devez vous forcer. C'est vous qui devez vous repentir, vous convertir et naître de nouveau. On ne peut pas le faire à votre place. Dieu nous l'interdirait, Dieu n'approuverait pas ça. Mais vous qui êtes debout, dites-lui, Seigneur, touche-moi. De nouveau. Il le fera. Ça n'a pas été ces 3 dernières années, ces 10 dernières années, peut-être plus, je ne sais rien. Nous, ça ne nous plaît pas quand quelqu'un ne fait pas de progrès. Mais le Seigneur, il est au-delà de ça, croyez-moi. Alors, dans l'ordre, la bienséance, l'adoration surtout, continuons à avoir nos yeux fixés sur lui. Il nous est dit de cet aveugle qu'il vit distinctement. Il n'a pas dû rentrer au village, ça c'est clair. Alors écoutez bien les conseils du Seigneur. N'entrez pas dans les endroits qui sont en train d'être maudits par Dieu. N'y entrez pas. Écoutez bien. N'entrez pas dans des endroits qui sont maudits. Parce que sinon vous allez vous faire piéger. Restez avec des chrétiens. Restez avec des fidèles. Restez-y. Notre Père, quel bonheur de pouvoir te parler, même quand tout va mal. Tu as dit dans ta parole que tu avais pitié de la prière du misérable. Tu as eu pitié d'un roi, tu as eu pitié d'un clochard. Et je sais que si on fait la même prière, tu auras pitié de nous. Oui, touche-nous de nouveau, Seigneur. C'est notre prière. Que ce moment de Sainte-Cène soit un moment de victoire, de délivrance, de guérison, d'onction. Seigneur, ce que tu dois faire, tu le fais. Alors merci du fond du cœur, Seigneur Jésus. Amen.